Préface. J'ai 35 ans. Du moins, je le croyais, mais connaît-on seulement l'âge de son âme? Il est de l'esprit comme de l'espace, un sentiment en suspens dans l'air du temps. Une vibration qui nous fait nous sentir différents à certains instants de nos vies passagères. Cela m'a d'abord fait peur de ne pas savoir, ou plutôt de deviner l'impalpable. Mais aujourd'hui, j'en tire une certaine exaltation. Celle de n'être plus tout à fait moi tel que je me voyais dans le miroir, tel que je vis. Il y a des gens qui se font des racines, partout, où qu'ils aillent. Moi, j'ai l'impression de n'avoir jamais eu d'autre pays, d'autre patrie que cette terre de Blaye. Comme si ma chair de souvenir était le souffle des vieilles pierres de la citadelle. Je l'ai aimée de suite, au premier regard, d'instinct, sans rien connaître de son histoire. Et puis, j'ai découvert le château, ou du moins ce qu'il en reste, et tout a basculé. Quelque chose est venu me prendre aux tripes, quelque chose de si violent qu'il a amené des larmes au fond de mes yeux. Cette sensation indéfinissable que vous procure certains endroits que l'on reconnaît sans les avoir jamais vus. Il y avait de la musique qui chantait dans ma tête, une étrange musique. Et soudain, il s'est dressé devant moi, tel qu'il avait dû être, donjon du prince de Blaye en 1137. Et j'ai su, enfin su, mes origines. Un troubadour du XXe siècle a chanté « Je suis né comme on meurt, dans un cri vers le ciel, né à né avec l'aube au pied du firmament. » Si je devais vous résumer ce que je vais vous raconter, je n'aurais d'autres mots. Mais tout ceci est tellement insensé. J'ai 869 ans. Je me nomme Loana de Grimwald. Première partie. Chapitre 1. Je ne m'aimais pas. Et cette nuit, moins encore que d'ordinaire. En ce 16 mai de l'an de grâce 1133, personne n'avait besoin de moi. J'avais beau apprécier l'attente, je guettais chaque pas affairé dans le corridor, chaque craquement des planchers disjoints, chaque son de voix qui franchissait ma porte fermée ou montait par le conduit de la cheminée et gazouillait dans l'âtre éteint. Je guettais, avec ce sentiment de plus en plus oppressant de solitude, l'instant. L'instant où s'ébranleraient les cloches de la cathédrale d'Angers, si proche du château qu'elle ferait trembler les murailles de pierre. Dame Mathilde, duchesse de Normandie, comtesse d'Anjou, du Maine et de Touraine, petite fille de Guillaume le Conquérant et prétendante légitime à la couronne d'Angleterre, enfantait dans l'hospice, au bas de l'escalier de bois, et j'étais là, inutile, rejetée, quand je frémissais de savoir l'enfant si proche, reléguée comme la moins efficace des servantes par mère qui, elle, était tout dans cette maisonnée. Ventrière, conseillère, astrologue, apothicaire, régisseur, sorcière. Et moi, je n'étais rien. Rien qu'une fillette malingre de 12 ans, perchée sur des jambes qui ressemblaient à des piquets de barrière et que je n'aimais pas davantage que le reste. Ni mes cheveux entre le blond et le roux, ni mes yeux désespérément grands dans ma figure longue tapissée de taches de rousseur. J'étais laide. Laide de ne servir à rien quand mère était tout. Elle m'avait envoyé tantôt dans les bois alentours ramasser des simples dont elle avait prétendu la nécessité. Ils étaient là, posés sur une table dans ma chambre. Lorsque je m'étais avancée, fière de mon importance, aux portes de l'hospice où Dame Mathilde hurlait, mère m'avait frotté le crâne en mêlant mes boucles rebelles malgré mes longues nattes. « Plus tard, Canillette, la comtesse est faible. L'enfant naîtra avec la pleine lune. Il sera gros et vigoureux. Sa venue est difficile. » Chacun a sa part de besogne et ta petite frimousse curieuse ne pourrait que gêner. Va.
Mais ceci, mère,
avais-je insisté en tendant mon panier. Plus tard, plus tard. Et la porte s'était refermée, me livrant seulement le spectacle de Dame Mathilde, les cheveux collés sur son front blême et dégoulinant, le visage crispé par l'effort, les mains agrippées à une table qui lui faisait face, debout, jambes écartées. Le bas de sa chemise blanche maculée de sang, entourée de trois ventrières qui s'activaient. J'étais montée me réfugier dans ma chambre, en tremblant d'effroi devant pareil spectacle. car de la grande Mathilde, imposante et fière, il ne restait rien en cette heure. Celle qui était ma marraine me paraissait un monstre hideux, possédé par quelque diable tourmenteur. Peut-être fallait-il prier. Prier de toute mon âme pour qu'il la laisse tranquille. Sottise, ineptie, Dieu avait bien mieux à faire. Et puis quoi? Que savait-il de cette douleur d'enfantement? Non, il valait mieux que j'en appelle à notre mère à tous. Je levai les yeux vers la croisée tendue de papier huilé que j'avais ouverte sur le couchant lourd, chargé de nuages d'orage. La lune s'y découpait par intermittence, ronde et pleine comme le ventre de Mathilde, ronde comme cette table qui trônait depuis l'avènement du roi Arthur sur l'Angleterre, ronde comme les yeux de Merlin l'enchanteur dont j'étais la descendante, ronde comme ce panier. Alors, brusquement, mon angoisse disparut.
« Merci, mère, »
murmurai-je à cette lune dont le visage souriant éclairait sans cesse ma vie. Car l'église aurait beau faire, j'appartenais à la lignée des grandes prêtresses d'Avalon, des druides et des fées, et ce n'était pas ce dieu triste et hypocrite qui parviendrait jamais à tuer les anciens rites, mes croyances comme celles de ma race. J'aimais bien trop la vie. J'avais bien trop acquis déjà de ce savoir que les prêtres nous contraignaient à oublier. Je fouillais dans un buffet en aulne et extirpait fébrilement un petit mortier en bois de cerisier. Puis, cueillant en coupe dans mes mains les simples abandonnés trop tôt, je les laissais tomber dans le récipient.
Si mère n'en veut pas, moi, Loana de Grimwald, par le pouvoir des trois cercles de vie, je leur donne l'eau, le feu et la terre pour que l'énergie universelle apaise et guérisse.
Je m'emparais du pilon et, gagné par la magie de mon incantation, je broyais le tout jusqu'à obtenir une pâte noisette à l'odeur de sous-bois. Mais il restait l'essentiel. Levant le mortier au-dessus de ma tête, je le portais à pas lents jusqu'à la fenêtre. Au loin, par-dessus les remparts du château, la campagne angevine s'endormait, tandis que les chandelles, dans les logis rassemblées autour de l'enceinte, mettaient petit à petit des taches lumineuses sur les vapeurs de la soirée. Des mugissements venaient se mêler au piaffement des chevaux et au grognement des cochons dans la basse-cour. Dans le colombier, des battements d'ailes et des roucoulements craintifs répondaient aux cris stridents des faucons.
« Ce n'est pas une nuit comme les autres, » remarquai-je. « Même les animaux le sentent. Bientôt, bientôt. Lors, je porterai l'onguent à la comtesse et caresserai l'enfant, dès que la lune ronde viendra m'éclairer d'un rayon. »
Je m'accoudai à la fenêtre en souriant de plaisir, le visage posé dans mes paumes ouvertes au-dessus du petit mortier de bois. Un cri de délivrance déchira l'hospice. Guenièvre coupa le cordon ombilical avec de fins ciseaux. Elle saisit le nouveau-né par les pieds et, le suspendant tête en bas, le fessa vigoureusement jusqu'à ce que retentissent dans la pièce des pleurs aigus.
« C'est un fils ! Que l'on prévienne Geoffroy le Bel !»
Quelques instants plus tard, je vis la porte cloutée tourner sur ses gonds avec ce grincement familier que j'espérais depuis des heures.
« Viens, » me dit Guenièvre.
Je pris avec précaution le mortier entre mes mains et, sans mot dire, devançai avec dignité ma mère dans l'embrasure de la lourde porte de chêne. Une fumée blanche et opaque avait envahi la pièce exiguë, mais je n'en avais cure. C'était une sorte de réduit, à l'arrière de ma chambre, où j'aimais essayer mes expériences magiques. À l'inverse de certains seigneurs de ces temps, Geoffroy dit le Bel, comte d'Anjou et du Maine, répugnait à l'utilisation de courtines pour séparer les pièces les unes des autres. De sorte que le donjon se trouvait partagé par des murs intérieurs faits d'éclats de pierres amalgamées avec de la chaux et du sable. Outre la vaste salle du rez-de-chaussée où l'on servait ripaille, à l'étage, tous avaient leur chambre, petite et étroite, certes, mais suffisante pour que chacun se trouvât à son aise. C'était une de ces exigences de confort que Dame Mathilde, après son veuvage d'avec l'empereur d'Allemagne, avait appréciée en deuxième noce. La vie au castel d'Angers en était devenue plus intime, ce qui n'était pas pour me déplaire. La fumée me piquait. Je me raclais la gorge, tout sautait plusieurs fois, mais déterminé à pousser mon entreprise jusqu'à son terme, je rajoutais dans la cheminée la mousse putride et nauséabonde que j'avais pétrie de mes doigts.